Chapitre 35. Questions ouvrières, problèmes d'argent. Causerie de Louis Evans à la radio, reproduite dans Vers de main du 1er novembre 1943. Le salarié. L'industrie moderne a fait naître les grandes agglomérations ouvrières, qu'un auteur appelle les casernes du prolétariat. Notre Nouvelle-France a sa large part dans ces casernes, qu'on a érigées avec beaucoup d'enthousiasme en rendant hommage au capital étranger qui daignait enfin venir enrégimenter les fils et les filles de chez nous. Prolétaires des papeteries et des pulperies, prolétaires des textiles, prolétaires des mines, prolétaires de l'amiante, prolétaires de l'aluminium, prolétaires multipliés au régime du développement de nos ressources naturelles au bénéfice d'exploitants internationaux, ne possédant plus un coin de sol pour en tirer leur nourriture, ces anciens cultivateurs ou fils de cultivateurs n'ont rien, absolument rien, que ce que leur salaire peut acheter pour vivre et faire vivre leur famille. Le salaire devient dès lors l'arme par laquelle l'employeur d'homme peut manœuvrer ses employés à son gré. Pas plus que l'esclave d'autrefois, le salarié d'aujourd'hui n'est réellement libre d'accepter ou de refuser les conditions de travail du maître devenu le patron. Sans doute que l'ouvrier peut refuser de servir, sans doute qu'il peut quitter son employeur, mais en même temps, c'est le pain qui quitte sa table, c'est la misère qui s'installe à son foyer. Sans doute que l'ouvrier peut rencontrer son patron et lui expliquer ses griefs, lui démontrer comment le salaire touché est insuffisant en face des prix pour lui permettre à lui et aux siens une honnête subsistance. Mais le patron est-il beaucoup plus indépendant que l'ouvrier? Le patron n'est pas le maître absolu de l'entreprise. Il y a le financier qui, bon an, mal an, réclame la fécondité de son argent. Dès le jour de son entrée dans la circulation, l'argent ne réclame-t-il pas une progéniture? Le salaire et les prix. La vie du patron exige déjà un profit. La fécondité de l'argent exige encore plus préremptoirement des profits. Pour avoir des profits, la première condition de l'industrie est de vendre ses produits. Pour vendre, il faut offrir ses produits à un prix qui puisse soutenir la concurrence des autres producteurs. L'ouvrier peut l'oublier, le patron doit s'en souvenir constamment, ou il se le fait violemment rappeler par la menace de la ruine. Or, si le patron augmente le salaire de ses ouvriers, il doit nécessairement augmenter le prix de vente de ses produits. Sinon, sa comptabilité se soldera à l'encre rouge, il devra envisager une liquidation. Et si le patron augmente ses prix de vente pour couvrir les augmentations de salaire, pourra-t-il vendre en face de la concurrence? Et s'il ne vend pas ou s'il vend moins, c'est la diminution de son personnel en attendant la solde à l'encre rouge et la fermeture totale de ses ateliers, plaçant à la fois employeur et employé en face d'une huche vide ou au crochet des voisins ou des administrations publiques. Sans doute que les ouvriers de toutes les industries peuvent s'unir pour réclamer une augmentation de salaire. Sans doute que les patrons de toute cette industrie peuvent s'entendre, convenir d'une augmentation générale des salaires et d'une augmentation parallèle des prix de vente dans toute cette industrie. L'obstacle de la concurrence disparaîtrait par ce cartel. Mais quel sera le résultat? Qui soldera l'augmentation des prix de vente sinon le consommateur? Le consommateur qui devra ou se priver des articles majorés, ou les payer au prix majoré et se priver de sur d'autres articles? Dans l'un et l'autre cas, un chômage, au moins partiel, frappera au moins une section du monde ouvrier et patronal. Les secteurs qui augmentent ainsi leur salaire et les couvrent par des augmentations du prix sur les produits bénéficient temporairement. Mais en face de ces prix majorés, les autres secteurs s'agiteront certainement jusqu'à ce qu'ils obtiennent une augmentation correspondante. c'est le renchérissement général qui pince tous les consommateurs. Or, le monde consommateur n'est-ce pas majoritairement le monde ouvrier lui-même? Comment sert-il de toucher 5% de plus en salaire si le prix des produits est augmenté de 5%? Aussi, je dois chômer une journée ou deux par semaine, ou deux ou trois mois par année. L'abondance oubliée. Et pendant que le financier, l'entrepreneur et l'employé sont ainsi à couteau tiré pour déterminer quelle part ira à l'un, quelle part à l'autre, pendant ce temps-là, des montagnes de produits restent sans preneur. On se rebiffe, on se syndique, on s'envoie mutuellement des ultimatums, on réclame ou on refuse des cours d'arbitrage, on discute, on remet, on signe des accords provisoires, on les contourne, on recommence les luttes, on entre en grève, on déclare des lock-outs, on monte des assemblées, on prononce des discours virulents, des haines s'avivent, des moralistes prêchent, des agitateurs montrent les vitrines et les belles demeures, des gouvernements se préparent à mobiliser des troupes, des masses se tournent vers le communisme, des capitaux s'effraient, des enfants meurent de faim, des femmes se désespèrent, des hommes se suicident, des chrétiens se damnent. Tout cela parce qu'on n'arrive pas à donner satisfaction en essayant de répartir une production de 2 milliards, alors qu'au moins 2 autres milliards sollicitent vainement des consommateurs et que d'autres milliards n'attendent qu'une demande effective pour prendre existence. 3 hommes se battent à mort autour d'une livre de pain, alors que 2 autres livres de pain moisissent sous leurs yeux parce que personne ne songe à s'en servir. La lutte autour du cygne. Tout le problème économique moderne est là, le problème ouvrier comme les autres. On a déplacé la question économique de la chose vers le cygne. On s'entre-déchire pour un argent rare, au lieu de fraterniser pour jouir d'une production abondante. On pense en piastres, au lieu de penser en blé, en vêtements, en chaussures, en maisons, en produits de toutes sortes. Parce qu'on pense en piastres, et que le banquier rend les piastres rares, on pense en termes de rareté. Il serait si facile de satisfaire tout le monde, d'établir paix et entente entre producteurs patronaux et producteurs ouvriers, si l'argent à répartir était aussi abondant que la production offerte. Aurait-on besoin de tribunaux d'arbitrage ou de mesures de violence pour décider combien de minots de blé, combien de livres de fromage seront le lot du patron, et combien seront le lot de l'ouvrier, quand patron et ouvrier ensemble sont incapables de consommer tout le blé et le fromage que peut fournir la production même freinée du pays? Faudrait-il tant de luttes pour décider combien de paires de chaussures pourra s'approprier le patron et combien en pourra prendre l'ouvrier, lorsque les manufactures de chaussures doivent fermer parce qu'il y a trop de chaussures dans le pays? Et ainsi du bois de chauffage, et ainsi de l'espace et des matériaux pour bâtir des maisons, et ainsi des meubles, et ainsi de toutes choses. Pourquoi ne pas voir les belles réalités? Il y a tant et tant pour mettre l'abondance partout, mais la distribution de toutes ces choses est liée au signe argent, et on s'arrête au signe argent. On trouve le signe argent rare et on accepte les décrets de ceux qui le rendent rare sans raison. On ne voit plus les choses abondantes. C'est Dieu et les bras et les cerveaux des hommes qui ont fait les choses abondantes. On ferme les yeux sur les dons de la providence généreuse. On ferme les yeux sur les fruits du génie et du labeur humain. Et l'on fixe sur la rareté de l'argent et l'on s'obstine à la lutte pour l'argent rare. Quand donc allez-vous ouvrir les yeux sur les belles réalités, au lieu de les river sur des signes artificiels, vous, sociologues, vous, chefs ouvriers, qui dépensez tant d'énergie autour de la répartition des piastres? Que ne consacrez-vous un dixième de ces énergies à exiger que les faiseurs de piastres sortent des piastres, en rapport avec ce que l'agriculteur sort de son champ, en rapport avec ce que le patron, l'ouvrier et la machine sortent de l'usine? Les piastres canadiennes abondantes, comme la production canadienne, les piastres canadiennes dans la maison canadienne, pour acheter la production canadienne. Si le sol obéit à la charrue du cultivateur, si le tour obéit au mécanicien, pourquoi les piastres n'obéirait-elle pas à une comptabilité nationale exacte? Un progrès qui mortifie. Puis voici qu'un cerveau humain, ajoutant ses recherches personnelles aux recherches et aux acquisitions des siècles d'études, met au monde une machine nouvelle. La machine va faire l'ouvrage de 20 ouvriers et réclamer l'attention d'un seul. Pour le patron, c'est un avantage. Pour l'ouvrier, c'est une terreur. Pourquoi? Parce que la machine fournit le produit en dispensant du travail de l'homme. Et puisque le produit est fait pour l'homme, l'homme devrait avoir le produit autrement que par son salaire, au moins dans la proportion où le produit vient sans son travail. Nouveau problème pour l'ouvrier, que son déplacement par la machine, problème qui ne sera jamais réglé par des échelles de salaire, puisque le salarié est supprimé par la mécanisation. Des chefs qui baisent leur chaîne. Que font les experts des questions ouvrières pour porter aux familles la production de plus en plus abondante, dissociée du labeur humain, donc dissociée du salaire? Des unions ouvrières neutres depuis 75 ans, des syndicats catholiques chez nous depuis 30 ans, s'organisent et luttent. Pourquoi? Est-ce que leur activité ne se ratatine pas sur les moyens d'obtenir une plus grosse part du signe rare, une plus grosse part des piastres en quantité artificiellement limitée? Quand ont-ils songé à demander d'abord un total de piastres réglé par le total de production, manuel ou mécanique? N'a-t-on pas fréquemment vu, au contraire, les autorités de ces unions et syndicats éliminer attentivement ou interdire formellement toute discussion sur ce sujet? Rare, l'argent est rare, ils en conviennent, le patron est, comme eux, esclave de la rareté d'argent, ils doivent bien en convenir encore, mais ils acceptent cet esclavage et déploient leur qualité militante dans la lutte entre esclaves. Ils admettent la rareté artificielle et se disputent les rations. Demander la libération de l'abondance, ce serait donner dans le crédit social, ce serait faire de la politique. Accepter le système absurde d'argent rare en face d'une production abondante, ce n'est pas faire de la politique. Mais demander un système plus exact et plus social, c'est faire de la politique. Ramper, ce n'est pas faire de la politique, mais se redresser devant un désordre effarant, c'est faire de la politique. S'en prendre à des frères qui souffrent également de la rareté d'argent, ce n'est pas faire de la politique, mais attaquer le système banquier qui crée sans raison cette rareté d'argent, c'est faire de la politique. Le maître de l'argent ne trouve-t-il pas de fameux protecteurs chez ceux-mêmes qui semblent s'apitoyer sur le sort de ses victimes?